l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul au jour le jour. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de votre magazine de société Séoul au jour le jour. Ce soir, on va commencer par vous parler d'un nouveau mode de livraison qui sera mis en place en Corée du Sud. Restez branchés, à tout de suite. Les Sud-Coréens pourront bientôt se faire livrer des colis par des drones et des robots, comme c'est déjà le cas dans d'autres pays comme aux États-Unis ou en Chine. Le ministère sud-coréen des Finances vient d'annoncer qu'il procédera, au début de l'année prochaine, à une révision de la loi en ajoutant les drones et les robots à la liste des moyens de transport utilisés pour les services de logistique urbaine. Car selon la législation actuelle, seuls les camions et les deux-roues motorisés sont considérés comme des moyens de transport pour la livraison de colis en ville. À l'issue de ces discussions avec l'organe de coordination composé des représentants des ministères concernés et des parties intéressées, le ministère des Finances a décidé non seulement de reconnaître le statut de moyen de livraison urbaine à ces machines, mais surtout d'utiliser les drones pour étendre les services de livraison aux régions reculées ou difficilement accessibles et les robots pour faciliter la classification des colis avant la distribution. En effet, depuis l'année dernière, le commerce électronique a connu un essor fulgurant partout dans le monde en raison des restrictions sanitaires liées au Covid-19. De nombreux pays, confrontés à une pénurie de main-d'œuvre, ont déjà lancé la livraison par drone et robot. Selon une étude, le volume des livraisons sans contact dans le monde devrait augmenter à raison de 24% par an en moyenne entre 2021 et 2030. Cependant, la Corée du Sud est à la traîne dans ce domaine. Et les experts ne cessent de rappeler que le principal obstacle à son développement est le manque de cadre législatif. Le gouvernement leur a enfin répondu favorablement. Dès le mois prochain, des tests de transport de colis par drone et robot entre le centre de distribution et les points de livraison seront menés à Gimcheon, dans la province de Gyeongsang du Nord, pour bien préparer le passage à la nouvelle législation. En Corée du Sud, donner le nom de famille de la mère à son enfant au lieu de celui du père est autorisé par la loi depuis 2008. Mais c'est une pratique encore rare, parce que ce n'est pas si simple que ça. Pourtant, un couple a récemment fait parler de lui en obtenant gain de cause devant le tribunal pour leur demande d'autoriser le changement du nom de famille de leur enfant en faveur de celui de la mère, et ce seulement un mois après le dépôt de leur requête. Kim et Jang se sont mariés en 2013. Au début de leur mariage, ils avaient choisi de ne pas avoir d'enfant. Pourtant, ils ont fini par changer d'avis et donner naissance à une fille en mai dernier. Avant de faire la déclaration de naissance, les deux parents ont eu de longues discussions au sujet du nom de famille que portera leur enfant. Et ils sont arrivés à la conclusion qu'il serait injuste de donner, comme le veut la coutume, le nom du père à l'enfant, compte tenu du poids des responsabilités assumées par la mère pendant la grossesse, l'accouchement et la maternité, et se sont mis d'accord pour attribuer le nom de la mère, Kim, à leur progéniture. Mais ils se sont heurtés à la législation en vigueur. En effet, le code civil sud-coréen prévoit que l'enfant prend le nom de famille de son père et qu'il peut prendre celui de la mère si seulement les parents ont fait part de ce choix aux autorités au moment de leur déclaration de mariage. Pour Madame Kim et Monsieur Jang, la seule solution sûre serait de divorcer sur le papier et se remarier, juste pour pouvoir déclarer leur choix concernant le nom de famille de leur enfant. Pourtant, ils ont décidé d'aller droit au but en faisant la déclaration de naissance avec le nom paternel et en déposant en même temps une requête pour que leur fille puisse changer de nom en faveur du nom de la mère. Devant le tribunal, ils ont fait valoir le fait qu'au moment de leur mariage, ils n'avaient pas envisagé de devenir parents et qu'il leur était donc impossible de prendre une telle décision. et d'ajouter que le port du nom de la mère aurait plus d'avantages que d'inconvénients pour l'enfant et à terme favoriserait le bien-être de ce dernier. La justice sud-coréenne leur a donné gain de cause en reconnaissant l'intérêt que pourrait apporter ce changement de nom pour l'enfant. Madame Kim s'est félicitée du verdict du tribunal et a exprimé son espoir que cette décision pourra contribuer à supprimer l'attribution automatique à l'enfant du nom de famille du père, un vestige du patriarcat. Reste que l'enfant devra peut-être faire face aux préjugés de la société à l'avenir, car un enfant portant le nom de famille maternelle est souvent pris pour un enfant de mère célibataire, né soit après la mort de son père, soit après le divorce de ses parents, et les préjugés entourant les mères célibataires sont encore nombreux et persistants dans la société sud-coréenne. So attend en ce moment même les résultats d'un examen qu'elle a passé le mois dernier. Cette guide touristique de 37 ans a été contrainte d'arrêter son activité l'année dernière à cause du Covid-19. Alors, elle a profité de cette pause forcée pour passer l'examen de la licence d'agent immobilier. Elle a consacré 40 heures en moyenne par semaine pendant 9 mois à sa préparation. Et elle est persuadée que ses efforts seront récompensés. Un cadre de grande entreprise de 56 ans a lui aussi passé cet examen. En fait, c'est la 7e année consécutive que le quinquagénaire s'inscrit à l'examen sans pour autant s'y présenter par flemme. Pourtant, cette année, il est passé à l'action. Car l'heure de la retraite approchant, il était de plus en plus inquiet de son avenir. Il est quasiment certain de l'avoir réussi vu la note qu'il a estimée en comparant ses réponses avec le corrigé. À l'annonce de cette nouvelle, sa femme a sauté de joie, autant que lorsque leur fille avait réussi son examen d'entrée à l'université. Le 30 octobre dernier s'est tenue en Corée du Sud la 32e édition de l'examen de licence d'agent immobilier. Cette année, le nombre de candidats a atteint un niveau jamais enregistré depuis sa création en 1985, avec 400 000 personnes contre 360 000 l'an dernier. À titre de comparaison, le nombre de candidats au Suneung, l'équivalent sud-coréen du baccalauréat, tourne autour de 500 000 chaque année. Alors, pourquoi un tel engouement pour cet examen appelé désormais Suneung des adultes ? En effet, cet examen était déjà populaire depuis longtemps parmi les personnes d'âge moyen et âgées qui se préparent pour une nouvelle phase de leur vie après la retraite. Car agent immobilier est considéré comme un métier où il n'y a pas de retraite. Or, cette popularité est en train de se répandre parmi les autres tranches d'âge adultes. Cette année, quelques 160 000 candidats, soit 40% du nombre total, avaient moins de 40 ans. Certains jeunes tentent d'obtenir la licence d'agent immobilier juste pour booster leur CV. Même s'ils n'arrivent pas à la faire valoir auprès des recruteurs ou échouent à se faire embaucher dans une entreprise, cette licence peut toujours leur servir de filet de sécurité, puisqu'ils peuvent se mettre à leur compte. Une autre raison majeure est la flambée récente des prix des logements. Les agents immobiliers perçoivent une commission correspondant à un certain pourcentage du prix de vente du bien. Donc, plus les prix des logements augmentent, plus leurs revenus augmentent. Ceci étant, dans les années à venir, la situation pourrait changer. Le gouvernement a récemment revu à la baisse le plafond des commissions immobilières. Il a également annoncé qu'il modifiera le mode d'évaluation de cet examen en le rendant plus sélectif. Selon le système actuel, il suffit d'obtenir une moyenne de 60 points dans toutes les matières pour décrocher la licence. Et il n'y a pas de limite au nombre de licences délivrées. Du coup, certains déplorent la dégradation du niveau des professionnels de l'immobilier.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Séoul le jour en compagnie d'Amélie Brissot ce lundi 15 novembre. Il y a quelques semaines, les policiers ont dû intervenir dans un complexe d'appartements situé à Incheon, à l'ouest de Séoul, car ils ont reçu un appel du président de l'association des résidents du complexe qui signalait un acte de vandalisme et une violation de domicile qui aurait été commis par 5 enfants qui jouaient dans l'aire de jeu de ce complexe. Les parents, arrivés sur place suite à l'appel de la police, ont été ahuris de voir leurs enfants apeurés et en larmes retenus dans le bureau administratif du complexe par le président de l'association des résidents, comme s'ils avaient commis un grave délit. En effet, ces enfants n'habitaient pas dans ce complexe et y étaient venus juste pour jouer dans l'aire de jeu. Or, le président de l'association a considéré qu'ils avaient commis un acte de vandalisme et les a même traités de cambrioleurs. Finalement, les policiers ont laissé partir les enfants, estimant qu'il n'y avait eu aucune infraction. Cette histoire a été révélée par l'un des parents des enfants qui a posté une pétition sur le site de la Changwade, le palais présidentiel sud-coréen. Les internautes, tout en étant rassurés par le dénouement de l'affaire, s'interrogent pour savoir si le terrain de jeu d'un complexe résidentiel constitue une propriété privée et si les enfants commettent ou non une violation de domicile en venant jouer dans l'enceinte d'un complexe alors qu'ils n'y habitent pas. Sur ces questions, les avis des avocats convergent plutôt. D'abord, les équipements communs mis à la disposition des résidents, comme une aire de jeu ou un jardin, sont une copropriété privée, étant donné que le prix d'un appartement comprend non seulement les coûts du bâtiment et du terrain du logement lui-même, mais aussi ceux de tous les espaces communs, y compris l'aire de jeu. Quant à la question de savoir si l'accès à ces espaces communs par les personnes extérieures constitue une infraction, la loi sud-coréenne sur la gestion des logements collectifs stipule que le gestionnaire peut autoriser l'accès et l'utilisation des équipements communs par les voisins dans la mesure où cela n'occasionne pas de gêne pour les résidents. Selon les avocats, on peut parler de violation de domicile si une personne est entrée dans un domicile contre la volonté de son occupant et que cet acte a nui à la tranquillité de ce dernier. Or, dans l'histoire qui s'est passée à Incheon, les enfants n'ont pas vraiment perturbé la vie des résidents ni commis d'actes contraires à leur volonté puisqu'il n'y avait aucune barrière ni panneau interdisant explicitement l'accès de l'aire de jeu aux personnes extérieures. Donc, l'acte ne constitue pas une violation de domicile. C'est plutôt le président de l'association des résidents qui s'est tiré une balle dans le pied, car les parents des enfants ont porté plainte contre lui à la police pour séquestration et intimidation. Jang, une employée de 31 ans, a récemment acheté des haltères de 2 kg, un tapis de yoga et une bande élastique pour se mettre au sport à la maison. Elle voulait initialement s'inscrire dans une salle de sport près de chez elle pour bénéficier d'un suivi personnalisé, mais y a renoncé après avoir constaté le grand nombre de personnes en liste d'attente. À chaque fin ou début d'année, on se fixe des objectifs et prend des résolutions pour la nouvelle année. Arrêter de fumer, perdre du poids ou apprendre des langues étrangères. Et les ventes des produits nécessaires pour tenir ces résolutions augmentent en conséquence. On est en novembre, mais un tel phénomène est déjà observé chez les commerçants. En effet, depuis le retour progressif à la vie normale entamé début novembre dans le pays, ils sont nombreux à prendre des résolutions et à s'équiper des outils nécessaires comme s'il s'agissait d'une nouvelle année. Selon la plateforme d'e-commerce G-Market, les ventes des produits liés au développement personnel, à la santé et au sport entre le 28 octobre et le 3 novembre ont fortement augmenté, voire même triplé pour certains produits, par rapport à la même période de l'année dernière. Chez Lotte Mart, l'une des plus grandes chaînes de magasins de distribution du pays, les produits pour la course et la marche ont vu leurs ventes bondir de 70% le mois dernier par rapport à octobre 2020. Ceux qui se sont fixés pour objectif de perdre du poids ou de se remettre en forme se ruent vers des aliments peu caloriques et riches en protéines comme le yaourt grec ou le blanc de poulet. Il en va de même pour les compléments nutritionnels, les produits d'aide à l'arrêt du tabac et les produits de beauté. Même constat chez les libraires. Chez Yes24, les livres sur le développement personnel, l'argent, la carrière ou les langues étrangères ont connu des hausses de vente entre 5 et 33% durant la première semaine de novembre par rapport à il y a un an. Bref, pour les Coréens, le retour à la vie normale avec la campagne « Vivre avec le Covid » ne signifie pas un relâchement, mais plutôt le retour d'une tension saine dans le quotidien. Le 9 novembre dernier, dans une salle de cinéma à Séoul, a été organisée une projection en avant-première d'un film sur une figure emblématique du paysage audiovisuel sud-coréen. Il s'agissait d'un documentaire intitulé « Sung-hae 1927 », qui dévoilait la vie de cet animateur télé de 94 ans, toujours en activité. Sung-hae sillonne le pays entier depuis pas moins de 33 ans comme hôte de l'émission Concours national de chant, diffusée chaque dimanche après-midi sur la chaîne KBS. Sung-hae 1927 est le fruit des efforts assidus d'un producteur. Lorsque celui-ci lui a parlé de son projet de documentaire, Sung-hae l'a rejeté du revers de la main. Mais le producteur n'était pas du genre à baisser les bras facilement et il a fait preuve d'assiduité pour obtenir l'accord de Sung-hae, sans oublier de lui dire à quel point son père était un grand admirateur de ce monument de l'audiovisuel sud-coréen. Finalement, au bout de 4 mois, Sung-hae s'est laissé convaincre et a accepté la proposition. Il s'est dit que c'était aussi une occasion pour lui de regarder sa propre vie en face, avec une certaine distance pour la première fois. C'est ainsi qu'est né le documentaire Sung-hae 1927, dans lequel la caméra le suit sur la scène, dans les coulisses, mais aussi dans son appartement où il vit seul depuis la mort de sa femme en 2018. Sung-hae, de son vrai nom Song Bok-hee, est né en 1927 dans la commune de Jaejeong, dans la province de Hwanghae, située aujourd'hui en territoire nord-coréen. Il y a étudié le chant dans une école de musique. Il est passé au sud de la péninsule durant la guerre de Corée. En 1955, il intègre une troupe ambulante et commence sa vie de saltimbanque, comédien et chanteur. Puis, à une époque où la télévision est le seul moyen de divertissement, il apparaît dans de nombreuses émissions comiques. Mais c'est surtout en tant qu'animateur à la radio et à la télévision qu'il devient l'une des personnalités les plus appréciées des Coréens. Le documentaire met l'accent sur ses qualités humaines, comme son humour, sa simplicité et sa persévérance, mais évoque également les drames qui ont marqué sa vie, dont notamment la perte de son fils, âgé de 22 ans en 1986, mort dans un accident de moto. Réalisé par Jero Yoon, auteur de films comme Beautiful Days et Fighter, le documentaire Sung-hae 1927 sort en salle le 18 novembre.
Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Asie. Après des 3 mois des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, les sponsors sont appelés à faire pression pour les droits de l'homme par l'association Human Rights Watch. Selon le quotidien britannique Financial Times, Sophie Richardson, directrice pour la Chine auprès de la division Asie, a récemment martelé que les entreprises qui sponsorisent l'événement restent muettes sur la façon dont elles exercent leur influence pour lutter contre le bilan épouvantable du pays, en mentionnant Visa, Coca-Cola et Airbnb, entre autres. La responsable a ajouté que ces sociétés étaient en train de laisser passer une occasion de démontrer leur engagement envers les normes des droits humains. L'Empire du Milieu est accusé d'avoir interné au Xinjiang au moins 1 million de musulmans ouïghours dans des camps de rééducation, ce qui a suscité un boycott de ces JO en Europe et aux États-Unis. Pékin, de son côté, a réfuté ces accusations, ajoutant que les forces étrangères tentaient d'alimenter les conflits. Nous nous dirigeons maintenant à Singapour, qui cessera de prendre en charge les frais médicaux des patients atteints du COVID-19 qui ont refusé de se faire vacciner à compter du 8 décembre prochain. D'après la chaîne de télévision singapourienne Channel News Asia, les personnes non vaccinées devront bientôt payer leurs soins avec leur propre argent en cas de contamination. Ces dispositifs excluent toutefois les enfants âgés de moins de 12 ans et ceux qui ne peuvent pas recevoir le vaccin à cause d'un problème de santé. Selon le ministère de la Santé, la majorité des malades souffrant de l'épidémie n'ont pas été vaccinés et ils exercent une pression importante sur les ressources médicales. Le film Joker ne sera plus diffusé sur les chaînes hertziennes du Japon. Un dispositif mis en œuvre après qu'un homme vêtu d'un frac violet et d'une chemise verte, comme le célèbre ennemi de Batman, a poignardé des passagers dans le métro de Tokyo et a déclenché un incendie en pleine soirée de Halloween. Cette attaque a fait 18 blessés. Selon le quotidien Tokyo Sports, la police a jugé que ce crime était fortement inspiré par le film américain, on sait que le coupable admirait le héros et que l'œuvre comporte une scène de meurtre qui se produit dans un métro. Déplaçons-nous en Inde, où un éléphant qui a tué 21 personnes a été rééduqué pour commencer une nouvelle vie. Selon l'AFP, Mukti, l'éléphant de 58 ans, qui a terrorisé bon nombre d'habitants, a été capturé et envoyé dans le camp de Tepakadu, dans l'état du Tamil Nadu, en 1998. D'après son dompteur, il est comme un enfant docile depuis très longtemps, à un point qu'il ne représente aucun danger, même si les enfants jouent avec lui, et il ne fait plus mal à personne. Fondé en 1927, cet établissement spécial apprivoise les éléphants agressifs ou ayant attaqué les êtres humains. Les animaux sont dressés pour transporter des poids lourds ou protéger des villages contre leurs congénères sauvages. Les éleveurs se sont accordés à dire que l'attaque des éléphants à l'égard des hommes est due à la perte de leur habitat et au manque de nourriture. Voici notre dernière nouvelle. Une femme d'origine sri-lankaise de 87 ans est devenue l'étudiante la plus âgée à décrocher un master à l'Université York au Canada. Selon la chaîne CNN, Varatha Jamuranathan, immigrée dans ce pays en 2004, vient de terminer sa maîtrise en sciences politiques. Ses travaux portent sur la guerre civile sanglante de son pays natal qui a tué 2/3 de la population des provinces nord et est pendant 26 ans entre 1983 et 2009. L'octogénaire voulait raconter l'histoire de son pays et clamer haut et fort aux autres générations que nous devrions aspirer à la paix. Le fait que l'université exempte les frais scolaires aux seniors a aussi été un facteur important qui l'a poussé à reprendre ses études. Son prochain projet, maintenant, est d'écrire un livre sur les circonstances et la paix au Sri Lanka.
Voilà, ainsi s'achève votre Séoul au jour le jour. En espérant que cette édition vous a plu, rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Choi Soyeon à la rédaction, Amélie Brissot au micro et Oh Ha-young à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine.